9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour à toi, camarade auditeur, ravi de vous retrouver pour cette émission qui est avant tout la vôtre et qui vous permet d'avoir le privilège, oui, de parler à Maître Serran, et c'est modestement que je dis ça. Bah oui, je me la raconte un peu de temps en temps, mais c'est un peu vrai, j'espère que ça vous fait plaisir quand même de me parler. Mais avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais vous saluer, mon cher Manuel Mariani. C'est une première, tous les deux, dans cette émission de droit. Que fait un amoureux de la cuisine dans une émission de droit? Bon, tu me diras que le droit c'est aussi de la cuisine et qu'un bon avocat doit pouvoir maîtriser des ingrédients qu'il n'a pas toujours choisis. Mais revenons à mon histoire. Sachez que Maître Serran a pris hier un coup de vieux en à peine 30 secondes. Et tout ça à cause d'une cliente. Je suis là tranquille au téléphone avec la cliente. Bonjour madame, bonjour maître, blablabla, blablabla. Et à la fin elle me dit, je vous envoie les pièces par WhatsApp. Par quoi WhatsApp? Bon, moi je connais le fax. Alors c'est vrai que c'est un peu vieillot, mais j'utilise aussi les mails. Khlas, c'est tout, j'utilise pas WhatsApp. Le plus triste, et c'est pas qu'elle m'ait parlé de WhatsApp, c'est que la cliente, frère, elle a au moins 65 ans. Comment une femme de 65 ans est plus branchée que Maître Serran qui en a à peine 40. Bon, je suis à la page quand même. Ben ouais, je maîtrise parfaitement les gars internet. Je suis champion du monde de consultation, de site, de Bzazel traduction, de Nibar, frère. Fais pas semblant, hein, auditeur. Tu vas me faire croire que t'as jamais jeté un œil sur un site de fesses. Jamais, Goulola, jamais, quand je pense que je suis de la génération du Minitel. Alors à l'époque, il y avait hein, des sites coquins. Sauf qu'entre le moment où tu te connectais et le moment où tu accédais au site, il fallait attendre au moins 15 heures sur le site, tu t'appelles le nom du site. Par exemple, je sais pas, moi, 3615 ULA, hein, 482 francs la minute, hein, c'était à l'époque des francs et ça coûtait une fortune. Je sais, mon cher Manuel, que ça vous rappelle des souvenirs, sauf qu'à l'époque, vous étiez beau et que vous aviez encore la forme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu t'appelles 3615 ULA, t'attendais que le site apparaisse avec un bruit de connexion insupportable. Hein. Et tout ça, si ça se passait bien et si la connexion se coupait pas, bien évidemment, tu voyais apparaître le site ligne par ligne. Et tout ça pour voir quoi, à la fin? Frère, des Bzazel pixelisés. Les seins, ils étaient carrés, chelous pour des seins. Mais à l'époque, on était contents. Et puis, on n'avait pas tous le Minitel. Moi, régulièrement, le mercredi après-midi, j'allais chez mon pote pour me connecter. Mais enfin, ça, c'était quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis vieux et marié. Bon, j'arrête de pleurer sur mon sort et je vous invite à appeler le 01 53 48 3000 à poser vos questions. Émission chapeautée par monsieur Manuel Mariani. Lui aussi a dû user ses doigts sur le Minitel. Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Eh oui, bonjour Maître Serran. Alors, je rappelle aux auditeurs que si vous voulez laisser un message à Maître Serran, vous pouvez faire ça sur son service Minitel, 3615, c'est tout droit, surtout le matin au réveil.
Faut pas hésiter.
Et puis, éventuellement, vous lui laissez un petit message sur son Bebop. Ah ben non, on peut pas sur les
Bebop. Ah non, c'est terminé ça.
Bon, faudra vous mettre au téléphone portable comme tout le monde, Maître Serran. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant puisqu'on va parler du droit de visite pour les détenus, Maître Serran.
Oui, c'est un sujet qui est intéressant, qui doit concerner 95% des gens qui nous écoutent, hein, qui évidemment ont tous probablement de près ou de loin un membre de la famille détenu aussi.
Non, vous exagérez.
Non, bah oui, j'exagère évidemment.
Vous exagérez un petit peu. Alors, la visite, le droit de visite pour les détenus. Bon, c'est vrai que c'est effectivement un sujet qui peut toucher beaucoup de monde. Déjà, qui a le droit de visiter un détenu, Maître Serran? Alors, est-ce que c'est uniquement réservé à la famille? Est-ce que les amis peuvent y aller? Si je suis un cousin éloigné du bled, est-ce que je peux y aller? Comment ça se passe?
Alors, d'abord, c'est souvent un traumatisme. C'est-à-dire que quand vous avez un membre de la famille qui est détenu, il faut savoir que spontanément, on vous dit pas, en tout cas, l'administration ou le tribunal vous dit pas spontanément comment aller faire pour obtenir un permis de visite. Donc, c'est toujours un moment assez désagréable pour la famille ou pour les amis. Alors, on va distinguer deux choses. D'abord, si il y a une enquête qui est en cours, et le plus souvent, donc si vous avez une instruction qui est en cours, il y a un seul magistrat qui est compétent pour ça, c'est le juge qui s'occupe de l'enquête, donc c'est très souvent le juge d'instruction.
Oui, donc on précise aux auditeurs, hein, si l'enquête est en cours et que vous êtes un complice du détenu, ne demandez pas de droit de visite,
non,
on évite.
Oui, alors voilà, après c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que si de près ou de loin vous êtes effectivement, en tout cas vous vous sentez concerné, vaut mieux éviter, puisque, et en particulier quand l'instruction est en cours, vous avez bien compris que le juge va quand même s'intéresser à vous, à votre passé judiciaire et voir si vous apparaissez pas éventuellement sur des écoutes téléphoniques. Donc, ne vous jetez pas dans la gueule du loup.
Alors, est-ce que ça veut dire que le parquet ou l'entité qui accorde les droits de visite peut faire une enquête sur la personne qui demande le droit de visite?
Complètement. Alors, soit l'enquête est en cours et le juge d'instruction va se pencher sur vous, soit... Deuxième hypothèse, vous êtes condamné, donc cette fois-ci c'est plus le juge d'instruction mais c'est l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire donc que vous devrez saisir, mais pareil, on va quand même s'intéresser à votre situation pour voir si de près ou de loin vous n'avez pas un rapport avec, en tout cas dans l'affaire, avec la personne concernée. Donc vous écrivez à l'établissement donc qui a incarcéré l'intéressé, si vous êtes un membre de la famille, alors c'est la famille entre guillemets au sens large, alors c'est l'épouse, les frères, les sœurs, les parents, mais ça peut être aussi la concubine, le concubin,
oui, ça peut être la compagne, le compagnon,
les personnes paxées, enfin voilà, hein, on est dans le sens assez large de la notion de famille. En principe, il y a une règle, c'est de droit. C'est-à-dire que si vous êtes un membre de la famille, on ne peut pas vous refuser donc de vous accorder un permis de visite. Tout en sachant qu'à tous les grands principes, on a des exceptions. L'exception étant que si à un moment ou à un autre, vous avez eu des difficultés avec l'administration pénitentiaire, je sais pas, moi, vous avez insulté un gardien ou alors on vous a vu lancer... Ça arrive très souvent, un sac de l'autre côté du mur et on vous prend justement la main dans le sac, il est certain que là, faut pas tenter quoi que ce soit et ça vous sera refusé. Mais la règle étant que pour la famille, c'est de droit. Pour les personnes extérieures à la famille, alors ça peut être des amis, ça peut être aussi des intervenants, des visiteurs de prison, des éducateurs. Même cause, mêmes effets, c'est-à-dire qu'on considère que on doit pouvoir vous l'accorder, sauf si votre présence peut, entre guillemets, on va dire, nuire à l'insertion de la personne qui a fait l'objet de la condamnation. Donc là encore, l'administration peut refuser, mais la décision de refus doit être motivée. On doit vous expliquer les raisons pour lesquelles on refuse. On a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est-à-dire que l'administration va vous envoyer un courrier pour vous exposer les motifs éventuel du refus, vous aurez un délai pour y répondre et si l'administration maintient son refus, à charge pour vous de saisir éventuellement le tribunal administratif. Sachez qu'il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'on a beaucoup de refus qui sont considérés comme abusifs de la part de l'administration pénitentiaire.
Alors si par exemple, je sais pas, j'ai fait des bêtises étant jeune, donc j'ai un casier judiciaire et je souhaite visiter quelqu'un. Alors j'ai payé ma dette à la société, hein, je suis en règle, mais je veux visiter un ami ou quelqu'un de ma famille qui est détenu. Est-ce que mon casier judiciaire est éliminatoire?
Non, votre passé judiciaire aussi important soit-il, donc peut pas être invoqué pour vous le refuser. On ne peut vous refuser donc de le permis de visite que si de près ou de loin, à un moment vous avez été lié à la situation ou en tout cas au dossier qui fait que votre ami est incarcéré, mais le fait d'avoir un casier judiciaire qui ne vous concerne que vous ne peut pas être invoqué. Donc vous ne constituez pas entre guillemets une nuisance pour l'établissement pénitentiaire. Vous aurez là encore deux droits, mais alors on dit deux droits, mais c'est vrai que dans la pratique c'est parfois invoqué. Donc là encore, faut pas hésiter à contester. Et encore une fois, il y a une jurisprudence. Votre casier judiciaire n'est pas pris en compte pour vous refuser de facto un permis de visite.
D'accord. Alors, si vous voulez poser des questions à Maître Serran, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Alors, justement, vous disiez qu'on écrit à la maison d'arrêt pour demander un droit de visite, mais à la maison d'arrêt, après, que se passe-t-il avec la demande? C'est-à-dire, qui octroie et qui suspend le cas échéant?
Alors, c'est toujours le directeur de l'établissement. Alors, c'est vrai que le directeur de l'établissement peut vous l'octroyer, mais une fois qu'on vous l'a donné, c'est pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si on considère que vous avez eu un comportement fautif à un moment ou à un autre, on peut vous le suspendre. Et si on considère que le comportement fautif est suffisamment grave, on peut évidemment vous le retirer complètement et vous annuler donc ce permis. Mais c'est toujours le directeur de l'établissement, quand la personne est déjà condamnée, qui s'occupe d'octroyer le permis de visite.
Et le délai, là, d'ailleurs, pour obtenir le permis de visite, quel est le délai?
Alors, il n'y a pas, entre guillemets, de délai particulier. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous écrivez à l'établissement et le moment où vous devez avoir un retour, allez, on va dire, si c'est long, très long, ça pourrait être un délai de 15 jours. Mais on n'a pas un texte qui dit que le chef d'établissement doit répondre dans un délai déterminé.
Oui, c'est donc, si je ne vous ai pas répondu dans tel délai, le permis est automatiquement voilà, octroyé. Ça ne marche pas comme ça.
Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vrai que l'administration joue parfois sur cette situation.
Très bien. Eh ben, on va faire une petite pause pendant que Maître Serran tout saute un peu. Et on se retrouve tout de suite pour parler du droit de visite en prison. À tout de suite sur Beurre FM.
À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors c'est bien à votre service, mais c'est pas Philippe Robichon, c'est Manu avec vous et Maître Serran. Hein, Philippe Robichon est parti. C'est un grand sportif. Mais là, il est parti faire un stage de ping-pong à Canton. Donc,
mais il n'a pas été faire une vasectomie.
Non.
Qu'on m'a dit
pas encore, pas encore.
Ah, pas encore. Bon.
Pas encore. Apparemment, le truc s'est arrêté tout seul. Non. Alors, écoutez, il doit avoir les oreilles qui sifflent, le pauvre Philippe. Donc aujourd'hui, on vous parle des droits de visite pour les détenus. Alors, on a un appel de Samy qui nous appelle de Paris. Bonjour Samy.
Allô?
Oui, bonjour Samy.
Oui, bonjour. Vous m'entendez?
Oui. Ah, on vous entend bien, oui. Allez-y.
Ouais, bonjour. Enfin, j'ai essayé de joindre, je me souviens plus du nom, excusez-moi, Maître Serran.
Ah ouais, non, mais si vous souvenez même plus du nom, Samy, on va arrêter
bon, là. Bon, appel suivant.
Ouais, non, mais sérieux. C'est quoi ça? Non, ouais, mais quand même, Samy, alors.
Je suis aussi franc que vous, non? Alors, rapidement, je ne sais pas si vous avez...
Allez-y, Samy.
Alors, merci. C'est par rapport au droit de la consommation d'assurance.
Dites-moi.
J'ai eu un refus d'indemnisation.
Ouais.
Moi, à la base, c'est moi qui paye le véhicule pour le frangin. Et suite à un accident de la circulation, pour essentiellement deux raisons. La première, c'est qu'il y a une partie qui avait été payée en espèces. Parce que c'était destiné à un achat en Allemagne.
Jusqu'à quelle hauteur le paiement en espèces?
Alors je vous explique, c'était 9 000 la compte, et ensuite ça a été rétrocédé quand le bon de commande il a été annulé en Allemagne et ont été restitués. Voilà. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce document-là. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, ça leur pose problème également la provenance des fonds, sachant que les chèques qui ont été encaissés, ils sortent d'un compte. Quoi. Il y a écrit chèque et puis c'est tout. Quoi.
Samy, je vous interromps deux secondes pour poser une première question à Maître Serran. Maître Serran, les paiements en espèces,
1 000 euros.
Quels sont... Voilà, il y a un maximum, mais il y a un maximum entre particuliers, un maximum entre particuliers et professionnels, c'est ça?
Non, c'est même entre particuliers et professionnels. Vous deux, alors on est passé de la barre des 3 000 à la barre des 1 000, donc c'est vrai que ça fait quand même entre guillemets peu.
C'est l'effet Tracfin.
Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que avec le système Tracfin, d'abord déjà si on voit des mouvements considérés pour eux comme suspects, donc il y a une alerte, mais les paiements en espèces c'est 1 000 euros et c'est pas 1 euro de plus. Donc c'est toute la difficulté. Et donc vous me disiez que alors le véhicule a été accidenté?
Oui.
Donc, conduit par votre frère, accidenté, et le véhicule est au nom de qui? Il est bien à vous?
Non,
la carte grise.
Tout est à son nom à lui.
D'accord, la carte grise est à votre frère, donc il est assuré, vous vous rapprochez de la compagnie d'assurance, et le motif donc, qui est invoqué?
Au bout d'un an, hein, quand même, hein, je tiens à préciser qu'ils ont bien épluché le dossier, ils ont mis un enquêteur.
Ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que si on est sur ce timing-là, ils ont dû effectivement enquêter. Donc l'argument est de dire on vous indemnise pas parce que il y a cette histoire, enfin a priori pour eux c'est un peu flou cette histoire de financement de véhicules.
Sachant que les 9 000 euros sont retirés du même compte avec carte bleue. D'accord, on voit retrait 3 000 en fonction
d'accord.
De la carte que vous avez. Voilà,
d'accord, c'est traçable, là il n'y a pas de difficulté.
Il n'y a même pas polémique.
Ah bon, en principe, c'est même pas un argument qui doit être invoqué, parce que souvent on a des clients qui nous disent j'ai réglé en espèces, mais enfin voilà, les espèces n'apparaissent nulle part.
Il y a une jurisprudence lyonnaise, je ne sais pas quoi, qu'ils ont motivé. Voilà, il y a ça, mais moi surtout que j'ai un document. Ah oui, ce qui les dérange, mais ça c'est. C'est pas dit officiellement.
Ouais.
C'est dit officieusement avec l'enquêteur que j'ai rencontré. Le garage appartient à quelqu'un que je connais, qui porte le même nom. Voilà, je suis re-rentré en contact là il n'y a pas longtemps avec l'enquêteur, super gentil tout ça, il a même pas à me répondre et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit mais pas de problème, je vais vous répondre, il m'a dit allez demander une copie conforme du registre des ventes.
Bah, c'est-à-dire qu'en gros, enfin, bon, ils vous le disent pas directement, mais à leurs yeux, c'est manifestement une escroquerie à l'assurance, quoi, avec, ouais, voilà, avec derrière une histoire de blanchiment d'argent.
Plus du blanchiment que escroquerie. Non,
bah, une escroquerie à l'assurance, c'est ça. C'est-à-dire que je dis quelque chose et puis je dis quelque chose. Mon véhicule a quelque chose, mais derrière, c'est pas tant l'accident que je cherche à indemniser, c'est essayer de, pardon pour le terme, d'arnaquer la compagnie d'assurance.
Alors, Maître Serran, est-ce qu'une compagnie d'assurance peut se substituer à la justice, puisqu'en l'occurrence, c'est presque le cas, pour vous refuser un droit pour lequel vous avez payé, à savoir j'ai payé une prime d'assurance, sans qu'il y ait un jugement officiel?
Ah oui, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, ce qui vous lie à votre compagnie d'assurance, vous avez un contrat. Alors, quand on lit le contrat de manière détaillée, alors il y a ce qui s'appelle des éléments voilà, qui excluent l'indemnisation du véhicule. Et là, en l'occurrence, effectivement, quand on considère qu'il y a escroquerie, quand on considère qu'il y a ou il y aurait blanchiment, la compagnie d'assurance peut jouer les pénibles en disant, écoutez, nous, on n'indemnise pas. Après, à charge, pour vous, et notamment vous,
tout
monsieur, de,
moi, voilà, de saisir... Centre, je suis allé au centre des impôts, carrément. Je veux dire, si j'ai quelque chose à
reprocher... Non, mais au bout d'un moment, monsieur, c'est-à-dire que... Je crois comprendre que vous êtes de bonne foi et que vous avez fait toutes les démarches, mais au bout d'un moment, ça va être un litige avec votre compagnie d'assurance, c'est-à-dire que s'il refuse de vous indemniser pour un motif, en tout cas, que vous vous contestez, il va falloir vous retrouver devant un tribunal de grande instance, et puis c'est un magistrat qui va écouter les arguments des uns et les arguments des autres, et qui statuera.
Et ça, c'est vous de votre ressort, ou pas du tout?
Bah oui, bien sûr, oui. C'est des litiges qui sont, j'allais dire, assez classiques, parce que les compagnies d'assurance ont, j'ai presque de plus en plus de mal spontanément à rembourser. C'est toute une difficulté. Donc, il ne faut pas hésiter quand c'est comme ça. Donc, quand vous voyez que vous avez affaire à un mur, faut pas hésiter. Alors d'abord, si vous prenez un avocat, il enverra un petit courrier pour dire voilà la situation, expliquez-moi juridiquement ce qui s'oppose à l'indemnisation du client. Et s'ils maintiennent leur position, et dans ce cas-là, c'est un magistrat qui devra être saisi.
Et juste la petite question, est-ce que le fait est, j'ai un bon de commande qui était destiné pour un véhicule initialement en Allemagne, avec les photos, avec le nom du garage, on voit les coordonnées, on voit le montant, on voit tout. Il y a écrit à compte 9 800 € en Allemagne réclamé. Voilà. J'aimerais savoir le fait que la restitution a bien eu lieu avec un document. Est-ce que ça, juridiquement, ça a une valeur?
C'est-à-dire, je comprends pas le sens de la question.
C'est-à-dire, le véhicule, il a été payé avec un chèque ou une carte bancaire ou un virement. Et on a restitué la compte en espèces, hein, c'est ça?
Non, pas du tout.
Ah bon.
Le véhicule, je devais acheter une Mercedes. La Mercedes en Allemagne, c'est moi qui ai annulé. Comme j'avais versé 9 000 €.
D'accord.
Voilà.
Bon, vous aviez versé 9 000 € pour ce véhicule.
Voilà.
Et ensuite, vous annulez la vente.
J'annule la vente et ensuite il rentre un véhicule français en France.
Ouais.
Et je dis à mon frangin, celui-ci il est pour toi, c'était pour faire du transport de
personnes.
Voilà, je lui dis celui-ci c'est pour toi. Moi étant absent, il a pris mon acompte, d'accord, pour bloquer ce véhicule.
Ouais.
Et quand je suis revenu, il m'a restitué les fonds à moi en personne.
Bon, enfin voilà, c'est-à-dire que encore, ce qui est important, c'est qu'il y ait une traçabilité de tout ça. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous me dites, j'ai sorti de ma poche 9 000 € et je vous pose la question de savoir, mais ils viennent d'où et tout ça, et on peut pas en justifier, ça devient problématique. Mais vous me dites que vous pouvez justifier tout ça. Non, donc il n'y a pas de difficulté. En tout cas, il n'y a pas de difficulté. Là, il y en a une pour la compagnie d'assurance, mais juridiquement parlant, je vois pas quel argument pourrait être invoqué devant un tribunal pour que la compagnie d'assurance...
Maître Serran, si Samy n'arrive pas à faire entendre raison à la compagnie d'assurance, quelle juridiction il doit éventuellement saisir
C'est le tribunal de grande instance donc qui va falloir saisir, et encore une fois, malheureusement... Pardon?
Malheureusement.
Non, j'allais vous dire malheureusement. Enfin, j'imagine que, alors que qu'il y ait un avocat ou pas, c'est-à-dire que si vous prenez un avocat, encore une fois, l'avocat va contacter, entre guillemets, la compagnie d'assurance pour essayer de trouver un arrangement amiable. Bon, c'est peu probable
que
la compagnie. Non, mais même si c'est long et si on se dit ça aboutit, c'est pas grave. Mais là, c'est a priori peu probable de ce que vous êtes en train de me raconter. Donc, il faudra prendre un avocat pour aller devant le tribunal de grande instance, car l'avocat est obligatoire en la matière.
Là, c'est au moins 1 an, 2 ans de traitement.
Pour le tribunal ? Oui. On est, oui, à minima sur une année, oui, ça, c'est un an et demi. Ah ouais, ouais, bien sûr.
Ok.
Ouais, ouais.
Bon, ben,
tout en sachant qu'à la fin, vous, ouais, vous aurez le droit de solliciter ce qui s'appelle l'article 700, c'est-à-dire que, évidemment, c'est une procédure qui coûte des sous, et vous pouvez demander au tribunal de condamner la compagnie d'assurance à vous rembourser vos frais de procédure, puisque c'est à cause de leur, voilà, de leur entêtement que vous en êtes là. Mais au niveau de timing, ouais, c'est long. Là, je peux pas aller contre ça, mais vous serez à minima sur un an et demi.
D'accord. Bon, ben merci.
Merci, merci Samy, de votre appel et de votre fidélité. Voilà, si comme Samy, vous avez une question à poser à Maître Serran, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Alors, revenons au droit de visite, Maître Serran, pour les détenus. On parlait tout à l'heure de la possibilité pour une maison d'arrêt de refuser un permis de visite. Comment on peut contester? On le fait auprès de qui? Et est-ce que là, ce sont les mêmes délais que pour l'obtention d'un permis de visite ou est-ce que c'est plus long?
Non, à partir du moment où, encore une fois, on vous refuse le permis de visite, donc vous allez d'abord recevoir un courrier de la maison d'arrêt, en tout cas du chef d'établissement, donc qui va vous dire, voilà, les raisons pour lesquelles je vous refuse le permis de visite. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'on va vous inviter et vous aurez un délai entre 8 et 15 jours en général pour apporter une réponse, pour essayer d'expliquer que la maison d'arrêt est dans l'erreur en vous refusant ce droit. Et puis, si malgré ça, la prison, pour faire simple, donc continue obstinément de refuser ce permis de visite, à charge pour vous d'aller devant un tribunal administratif. Alors les délais devant les tribunaux administratifs sont longs. Maintenant, il n'y a rien qui interdirait de tester une procédure, de référer, c'est une procédure d'urgence. Il y a un intérêt, et en particulier quand vous êtes un membre de la famille directe. Alors voilà, vous êtes le frère, vous êtes les parents, vous êtes l'épouse, la concubine. Donc vous pouvez quand même tenter une procédure de référé. Et si le tribunal, évidemment, annule le refus de la maison d'arrêt, vous serez, vous, autorisé à aller rendre visite à l'intéressé.
D'accord. Donc là, on a parlé du cas où on ne m'accordait pas un permis de visite suite à ma demande, mais un permis de visite peut être suspendu ou supprimé. Alors, dans quel cas il l'est? Et comment, cette fois-ci, on le conteste? Est-ce que c'est la même procédure?
Alors, c'est exactement la même procédure. C'est-à-dire que je peux, moi, vous accorder un permis aujourd'hui, puis je considère que vous avez eu, lors d'une visite au parloir, un mauvais comportement. Donc, je peux vous le suspendre pendant quelques temps. Entre guillemets, ça va vous servir de leçon. Et puis, si vous entrez, évidemment, dans en maison d'arrêt avec un peu de cannabis ou autre, avec des produits illicites, évidemment que là, on est au-delà de la suspension et puis on va vous le supprimer tout simplement. Mais même cause, mêmes effets, même procédure. Je vous le refuse, je vous le suspends ou je vous retire définitivement votre permis. C'est la même procédure.
Même donc, motif, même punition et on s'adresse à la même institution.
Complètement.
Très bien. On va prendre un appel de Samir. Samir qui nous appelle de la Courneuve. Bonjour Samir.
Bonjour maître,
bonjour
Manu.
Bonjour, ouais. Bonjour.
En fait, j'ai un ami qui est là en France depuis trois ans.
Depuis trois ans?
Ouais. Il n'a pas de papier.
D'accord.
Mais en fait, il y a son père qui est combattant, Harki.
Ouais.
Ouais, il a tout lui.
Alors pas de papier, c'est-à-dire qu'il
est venu avec un visa de tourisme, quoi. Voilà,
rien du tout, voilà, mais quand même rentré avec un visa.
Voilà.
D'accord.
Avec un visa.
D'accord.
Mais comme en fait, il m'avait parlé de son père, il a une carte de combattant qui a été établie en 2001. Il a aussi un justificatif en quoi qu'il a été, il est reconnu en tant que harkier.
D'accord. Alors il faut savoir, parce que souvent la question m'est posée, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est pas parce que vous avez eu un parent harké comme avec cette connotation-là et cette qualification que de facto les enfants vont pouvoir être soit régularisés, soit obtenir la nationalité française. C'est-à-dire, je dis souvent que la France a parfois la mémoire courte parce qu'on sait ce que ça a pu coûter quand même aux personnes qui ont décidé de faire ce choix. Pour autant, les enfants sont pas, en tout cas la situation des enfants n'est pas examinée avec un œil attentif au motif que le père a servi la France et qu'il aurait eu le statut de harké. Donc là, ce qu'il faudrait dans un premier temps quand même, c'est au moment où on se parle, votre ami n'a jamais, lui, saisi la préfecture. Il n'a jamais rien fait pour l'instant, depuis qu'il est sur le territoire français. Puis vous me dites que ça fait 3 ans.
Non.
Alors, ce que je vais dire concerne beaucoup de personnes dans cette situation. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre quand on me dit... Je suis en France, mon visa est, comme on dit, grillé depuis X années, et puis les personnes, entre guillemets, passent leur temps plutôt à se cacher et jamais à saisir la préfecture. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que si demain, après-demain, la personne se fait interpeller, elle ira dans ce qui s'appelle un centre de rétention, et ensuite, elle se retrouvera devant un juge qui s'appelle le juge des libertés et de la détention. La première question qui est posée par ce juge étant de savoir si... Notre client, depuis qu'il est en France, alors si vous êtes en France depuis 2 mois, entre guillemets, on va vous pardonner, mais si vous êtes en France depuis, comme votre ami là, depuis 3 ans, le juge va poser la question en disant, est-ce que vous avez fait des démarches auprès de la préfecture? Si la réponse est négative, si le type il dit non, quand bien même je pourrais comprendre la réponse en disant, écoutez, j'ai peur, j'ai pas voulu me faire remarquer par l'administration, le juge fera pas de cadeau, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas au magistrat de gérer ce type de dossier, c'est à la personne qui est en situation irrégulière de se manifester auprès de l'administration. Alors je sais que c'est pas simple de, entre guillemets, de se dévoiler auprès d'une préfecture, mais si le client ne fait pas ça, il peut pas ensuite, quand demain il est interpellé, dire, ah ben je... J'envisageais de demander ma régularisation. Donc ça, faut le faire, même si c'est pas simple, même si c'est assez flippant pour les clients, mais il faut pas rester dans l'ombre. Donc vraiment, pour l'instant, la première démarche à faire.
Il y a plus de risques à rester dans l'ombre qu'à se déclarer et à dire voilà bon.
Plus, voilà. J'ai humainement dire bon, ouais. On va pas se manifester.
Oui, et puis fils d'ancien combattant, fils de.
Voilà. Donc là, honnêtement, il faut quand même qu'il prenne cette initiative, qu'il reste pas comme ça cloîtré dans son coin. Il a quand même des arguments. Vous voyez, je vous ai dit que par rapport à son père, c'est pas, y a pas un texte qui dit si vous êtes le fils d'un harki, de facto, je vous donne des documents. Mais c'est des éléments qui sont en plus. Donc ce sont des éléments qui pourront être invoqués. Donc vraiment, la première chose à faire, monsieur, pour votre ami, est de saisir la préfecture du lieu de résidence. Et à partir de là, ouais, pardon.
Oui, non. Allez-y, maître Serral. Voilà, on va juste faire une pause.
Qui saisisse la préfecture et à partir de là, on lui dira non. Hein. Voilà, je me fais pas d'illusions, mais au moins ça va lui ouvrir ce qu'on appelle des voies de droit. Mais il faut au moins se manifester. On peut pas rester dans l'ombre et dire bah tiens, j'ai pas de papier.
Voilà, maître Serral, on va faire une pause. Juste avant la pause, je voudrais préciser une chose quand même, c'est qu'il y a pas longtemps, on fêtait l'armistice de la Première Guerre mondiale, hein, le 11 novembre. Et il y a une association qui a fait le tour de tous les monuments aux morts de France et qui a noté les noms et les prénoms. Et ben sachez que le 7e prénom le plus porté sur les monuments aux morts, c'était Mohamed.
Ben oui.
Donc les anciens combattants sont pas toujours là où on les croit. Donc voilà. Donc ça c'était juste une parenthèse puisque Samir nous disait être fils de Harki. On fait une petite pause, maître Serral, et puis on revient avec un autre appel et puis d'autres questions sur le droit de visite pour les détenus.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et donc toujours pas Philippe Robichon, toujours Manu, mais avec le grand maître Serral, le ténor des barreaux. Du barreau, non? Pas des barreaux. Ben oui, non, mais je dis des barreaux parce qu'on parle de détention aujourd'hui.
Ouais, mais des barreaux, du barreau, c'est le ténor.
Voilà, ben, le ténor tout court.
On va rester là-dessus.
Oui, parce qu'il chante aussi pendant les pubs, hein. J'essaierai de faire un podcast vidéo un jour pour vous montrer tout ça. Et sa voix pas de ténor, mais de stentor même, j'oserais dire.
Je suis d'accord.
Bien. Alors, on va reprendre un appel. On a Malik qui nous appelle de Montreuil et qui a une question pour le grand maître Serral. Bonjour Malik.
Bonjour. Bonjour maître.
Bonjour Malik.
Voilà, j'aurais une question qui ne concerne pas la détention, mais qui concerne aussi
bien sûr.
Le juridique.
Allez-y.
Vous pouvez.
Bien sûr.
Donc j'ai ma belle-sœur qui est bon, j'ai mon frère qui est français, qui s'est marié avec une ressortissante algérienne en 2016 et bon, madame est arrivée en France en 2017 et au bout de 15 jours de vie commune, elle a appelé ses tantes qui sont venues avec la police à la maison. Il a fait 48 heures de garde à vue pour faux témoignage comme quoi qu'il l'avait tapé. Et moi aujourd'hui ma question ça serait savoir comment parce que nous on a écrit au préfet pour que toute annulation de demande de récépissé ou de carte de résidence et on n'a aucune réponse à ce jour.
Ouais, alors je l'avais évoqué il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'il faut savoir que si on est dans cette situation et si madame se plaint de violence conjugale, alors après, est-ce que c'est avéré ou pas, ça c'est une autre question, mais s'il y a une sorte d'alerte en disant, voilà, j'ai ma situation administrative, qui est, qu'on le veuille ou non, fragile, puisque vous me dites qu'elle est en France depuis 2017, oui. Mais si elle invoque cet argument, et si cet argument est étayé, c'est-à-dire que si on considère qu'effectivement, elle a bien été violentée, et tout ça, il doit être prouvé, hein, évidemment, les autorités préfectorales lui permettront quand même, Malik, de rester sur le territoire français avec un titre, pour la simple et bonne raison que le raisonnement, c'est quoi? C'est de considérer que c'est pas madame qui joue la maline, mais qu'elle était obligée de quitter monsieur, même si sa situation administrative est fragile, parce qu'elle avait de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on peut pas demander, dans les situations de violence établies, hein, on peut pas demander à une femme de rester avec monsieur et de recevoir des coups juste pour dire ma situation administrative est trop fragile. Donc elle pourra, ou elle pourrait bénéficier d'une protection de l'État.
Oui, bénéfice du doute.
Eh oui. Donc, mais, c'est pour ça, hein, c'est peu probable dans un premier temps, Malik, que la préfecture, entre guillemets, la sanctionne. La question est de savoir, est-ce qu'il y a une procédure de divorce qui va être engagée, alors soit par madame, soit éventuellement par votre frère qui a été traîné dans la boue, s'il n'est pas responsable de ça. Mais la question d'après, c'est ça, c'est qui va entamer la procédure de divorce?
Ben, c'est nous qu'on a entamé, parce que nous, on a fait une demande de divorce en Algérie et qu'on a envoyé aujourd'hui le jugement de divorce au tribunal de Nantes.
Ouais, alors, sauf qu'il pourrait... Alors, vous avez fait une procédure de divorce en Algérie, mais madame n'était pas en Algérie à ce moment-là.
Ben oui, c'est la question que je me posais.
Alors, ouais, ça, c'est souvent la technique utilisée par, entre guillemets, par les compatriotes, mais c'est une très mauvaise idée. Il faut savoir que, sincèrement, il est peu probable que cette décision fasse l'objet d'une transcription, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que c'est un détournement de la loi, c'est-à-dire que même si vous êtes marié au pays... Et il faut savoir que le
vous restez marié en France, du coup,
oui, ouais. Le domicile de votre frère, la résidence de votre frère est sur le territoire français. C'est un juge français qui l'aurait fallu saisir et qu'il, de toute manière, à un moment ou à un autre, il va falloir le faire. C'est peu probable que le jugement au pays passe. Et ce, d'autant plus, on dit que c'est contraire à l'ordre public. Pourquoi? Bah parce qu'on va vous dire, attendez, si madame est en France à ce moment-là et vous la convoquez en Algérie, il y a entre guillemets, il y a une tromperie dans l'histoire. Elle ne pouvait pas être physiquement présente. Donc, honnêtement, ça sert à rien de faire des procédures flash au pays, parce qu'au pays, on divorce rapidement, hein, donc c'est un vrai mystère.
Oui,
ben,
c'est pour ça.
C'est le côté mystérieux du divorce. Mais je peux vous assurer que, selon moi, ça sert à rien. Il vaut mieux engager une procédure sur le territoire français, et ces arguments-là pourront être invoqués devant un juge français. Mais le divorce au pays, c'est peu probable qu'il puisse être transcrit. Hein.
D'accord. Donc là, en fait, Nantes risque de rejeter le...
Bah oui, carrément. Mais vous savez, parce que dans la décision, on indique quoi? On indique qu'il y a monsieur qui a engagé une procédure de divorce, et on verra est-ce que madame était là ou n'était pas là. Ce sera indiqué, madame est non comparente. Et ils vont s'intéresser sur le fait de savoir à quel endroit madame a été convoquée. Mais si à ce moment-là elle est en France, pourquoi est-ce que je la convoquerais dans sa ville ou dans son village ou dans son quartier du bled? Il y a aucune raison. Donc ça veut dire que je sais que madame est en France, mais je vais la convoquer en Algérie.
Oui, ça
donc,
peut même donner à penser à la justice française que c'est vous qui n'êtes pas à l'aise dans vos bottes.
C'est exactement ça, de toute manière. Parce que, encore une fois, dans un procès, pour que le procès soit équitable, je vous convoque à la bonne adresse, autant que faire se peut, vous venez, vous expliquez, vous avez tort, vous avez raison, mais je vous ai convoqué. Convoquer madame au pays alors que votre frère sait qu'elle est en France, honnêtement, ça passe pas.
D'accord.
Donc il va falloir, en tout cas... Pardon ?
Le risque, c'est quoi aujourd'hui, le risque ?
Ah non, mais le risque, c'est de vous dire, monsieur, ce jugement n'a aucune valeur sur le territoire français, et officiellement, votre frère sera toujours marié avec madame. Donc, le risque, entre guillemets, c'est ça, pas plus. On va pas l'incarcérer. Mais le jugement n'aura pas de valeur. Donc il sera toujours marié. Donc... À un moment ou à un autre, il faudra bien qu'il engage une procédure, soit lui, soit madame, sur le territoire français.
Moi, aujourd'hui, j'appelle ça un mariage gris, de toute façon. Donc, quand on dit un mariage gris, c'est un mariage gris. Ça veut dire quoi?
J'entends bien. Mariage gris, ça veut dire que votre frère pensait que c'était la femme de sa vie, que madame l'a utilisée simplement pour obtenir ses papiers. Contrairement au mariage blanc, on s'arrange à deux.
Tout le monde est d'accord. Oui.
Voilà. Donc, sur cet aspect-là... Vous avez le droit, évidemment, de considérer que c'est un mariage gris, mais vous avez bien compris qu'il faudra démontrer ça devant un juge aux affaires familiales. Et si, évidemment, demain, le juge aux affaires familiales considère qu'on était dans la tromperie absolue, les autorités préfectorales en tireront des conséquences par la suite.
Voilà, une démarche à faire en France et pas en Algérie.
Ah ouais. Et ça, c'est l'erreur qui est souvent commise, donc pas en France, hein. Pas en Algérie, pardon.
Voilà Malik pour votre question. C'est pas encore l'heure de la pause. On a Yasmina avec nous, une question encore. Bonjour Yasmina.
Oui, bonjour. Voilà, je me permets de vous appeler en fait parce que moi j'ai mon père qui est né donc en Algérie en 1941 et il détient toujours une carte de nationalité française qui a été établie en 1959. Et je voulais savoir s'il pouvait réintégrer sa nationalité.
Alors, sur le principe, il n'y a rien qui l'interdirait. Alors, pourquoi je vous dis sur le principe ? Parce que beaucoup de nos parents, grands-parents, donc bénéficiaient de cette carte d'identité, sauf que ils avaient un statut assez particulier, et c'était, entre guillemets, pour faire simple, des sous-français. C'est-à-dire qu'on considérait qu'ils étaient français, mais pas avec les droits reconnus pour la population du territoire français.
Ils étaient français au sens colonial du terme.
Complètement, oui. Ou pour les Européens. Donc, c'est pas parce qu'on a cette carte-là qu'on peut dire, attention, j'étais français à l'époque, et de facto, tout le monde l'était, mais avec un statut particulier. Donc, voilà. Alors,
J'ai une question quand même, Maître Cernes, pour Yasmina. C'est votre papa, il est en Algérie ou il est en France à l'heure actuelle?
Non, il est en Algérie à l'heure actuelle.
D'accord. Donc, il n'a pas une carte de résident français.
Il vit en Algérie, mais il a une carte avec nationalité française
bien sûr.
Dessus.
Ouais, bien sûr. Encore une fois, après, sauf que il y avait un statut particulier, un statut d'indigène, comme on disait. C'était un droit particulier pour les personnes natives du territoire algérien. Donc sur le principe, je le redis, il n'y a rien qui interdirait de le faire. Après, souvent l'argument qui est invoqué étant de nous ressortir des vieux textes de cette période pour dire oui, ils étaient français, mais pas le entre guillemets, pardon, ça va être plus simple, vous allez comprendre, pas le vrai français.
Oui.
Donc voilà, c'est toute la difficulté. Ce qu'il devrait faire peut-être avant de demander éventuellement une réintégration, c'est peut-être solliciter un certificat de nationalité française. Ça permet toujours de d'aiguiller les dossiers et de comprendre l'argument juridique qui peut être invoqué par le service de la nationalité. Donc il peut peut-être commencer par ça avec une copie de cette pièce d'identité.
Oui.
Maintenant, c'est peu probable qu'on lui dise bah oui, monsieur, pièce d'identité, tenez, vous êtes français, mais au moins vous aurez une réponse et un argument juridique qui peut déjà nous éclairer un peu sur la position de l'administration.
D'accord. Et à qui on doit adresser cette demande ?
Alors, c'est le service qui se trouve au tribunal de grande instance, le nouveau tribunal de grande instance de Paris. Donc, il est là-bas. C'est le service de la nationalité française, des personnes françaises nées ou demeurant, alors considérées comme françaises, nées ou demeurant à l'étranger. Donc, c'est un service exclusif. Donc, alors, je suis navré, c'est le nouveau palais de justice. Je sais que c'est au niveau de Porte de Clichy, mais il y a une adresse très précise que je ne connais pas par cœur. Je pourrais vous la communiquer. Si vous le souhaitez, vous trouverez ça sur Internet. Et donc, il faut envoyer un petit courrier là-bas.
D'accord. Donc, c'est un courrier avec la photocopie de la pièce d'identité.
Alors, photocopie de la pièce d'identité. Ils vont ensuite vous envoyer, vous verrez, il y a un formulaire à remplir avec d'autres documents à réunir. Et il faudra mettre les noms et prénoms à leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents aussi.
Oui.
Et une fois que vous renvoyez tout ça, donc, ils vont examiner, puis vous apporteront une réponse.
Quel est plus ou moins le taux de réussite de cette démarche, Médecin? Vous avez une idée? Ouais, très faible.
Ouais, c'est toute la difficulté, sauf qu'on est quand même obligé de passer par là pour ensuite contester devant un tribunal qui est le tribunal de grande instance et de Paris, hein, c'est une compétence exclusive. Et le tribunal de grande instance de Paris examine quand même les documents à la loupe, contrairement, je n'aime pas dire ça, parce que le service de la nationalité, je vais peut-être donner l'impression qu'il néglige. Il néglige pas, mais il répond trop rapidement.
Ouais.
Voilà, ils n'examinent pas tout. Le tribunal fait cet effort-là.
D'accord. Et quand on a des enfants qui sont résidents français, voire même de nationalité française, est-ce que ça aide justement à faire valider cette transcription?
Il n'y a pas d'incidence en la matière. Ce qui peut aider, c'est que si vous êtes déjà résident sur le territoire français, si vous avez des enfants de nationalité française, vous pouvez demander à bénéficier de la nationalité française en invoquant vos enfants. Donc ça, vous pouvez le faire. Mais là, on n'est pas du tout dans cette optique pour l'intéresser.
D'accord. Alors, voici pour votre réponse, donc, Yasmina. On va passer à Fatia, qui nous appelle. D'où, d'ailleurs, Fatia ?
Fatia, moi, je vous appelle de Créteil.
Eh ben, bonjour, Fatia de Créteil.
Bonjour.
Quelle est votre question pour Maître Serran ?
Bonjour d'abord à toute l'équipe, Maître Serran.
Bonjour, Fatia.
Vous avez. Merci. Alors, moi, c'est une question un petit peu vieille pour moi, parce que en 2002, quand je suis arrivée en France... J'ai fait une demande et par la suite, j'ai laissé tomber cette demande. Je me suis mariée. Aujourd'hui, j'ai la nationalité.
Alors, vous avez fait une demande de quoi en 2002
Une demande de séjour, en fait.
D'accord.
Et voilà. Et donc, elle a été refusée. Ouais. J'avais une invitation à quitter le territoire, etc. Les trucs là, comme d'habitude. Et puis après, j'ai pris un avocat. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. J'ai avancé quelques frais. Il m'a fait une première demande au niveau du tribunal pour un recours. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Je me suis mariée, j'ai eu ma fille, je travaille maintenant, j'ai ma nationalité, etc. Mais je voulais savoir, quand on arrête une procédure comme ça, qu'on n'en passe suite, ça me reste toujours à travers l'esprit, en fait. Je ne suis pas tranquille quelque part de ça. Malgré que ça fait bientôt 17 ans que je suis là, mais quand même, ça me reste toujours.
Temps. Alors, vous êtes mariée, vous avez obtenu la nationalité française, on est
oui,
d'accord
oui, c'est bon, y a pas.
Et votre question est de savoir, cette procédure qui a été engagée, vous voulez savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut faire peut-être une démarche particulière pour y mettre fin ou autre? C'est ça votre question?
C'est pas pour mettre fin, mais je me dis quand même, des fois, il y a des, comme ça, je sais pas, ça comme un loup sous.
Non, alors, il n'y a pas, voilà, je comprends. Mais non, il n'y a pas d'incidence particulière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous engagez une procédure, vous savez, les tribunaux essaient de rationaliser toutes les procédures. C'est-à-dire que vous avez des délais pour que l'avocat réponde aux arguments des uns et des autres. Mais si on considère que dans le délai qui est imparti à l'avocat, que l'avocat n'a rien répondu. Alors de deux choses, une, soit votre avocat, c'est d'abord désister, c'est-à-dire qu'il peut dire au tribunal, je me retire. Si c'est pas désister, il y a une décision qui a été rendue, mais elle sera caduque vous concernant. Il n'y a plus d'incidence.
Mais moi, j'ai pas reçu de courrier, ni rien du tout.
Il n'y a rien qui vous interdit, soit de demander à l'avocat, soit de demander au tribunal.
Ah non, je pense que
voilà,
Fatia,
on va devoir rendre l'antenne. Je précise, hein, puisqu'on parlait aujourd'hui des droits de visite pour les détenus, si vous avez encore d'autres questions, il y a un site qui est pas mal fait, qui est l'Observatoire international des prisons, oip.org. Il y aura beaucoup de réponses à vos questions éventuelles, et on retrouve Maître Serran la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Pour à votre service. Et puis, moi, je vous retrouve juste après la pause pour les petites annonces 01 53 48 3000.